Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Si vous êtes prêts à vous déconnecter de ce quotidien morose, alors poussez le volume. Je reçois Laurent Gounel, romancier, transmetteur, éveilleur, qui fait paraître chez Calman Levy Intuitio, et avec qui donc on va partir explorer d'autres mondes, des mondes qui sont en nous, fascinants et inattendus, et qui nous assurent un pouvoir dont on ne sait pas se servir, mais que les services secrets des grandes puissances utilisent. Voilà, c'est l'intuition.
Europe 1.
Bonjour Laurent Gounel.
Bonjour Isabelle.
Alors cher Laurent Gounel, bon, quand on s'arrête au mot intuition dans le Larousse, on peut lire « connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, à l'expérience ». Donc l'intuition ne provient pas d'un processus rationnel, c'est un savoir spontané qui vient de l'intérieur de soi, puisque « intuere » en latin signifie « regarder attentivement à l'intérieur de soi ». Mais, là où ça se corse, c'est qu'en fait, pour parler d'intuition, il faut bien faire la différence avec ce qu'est une construction mentale. Pour faire place à l'intuition, il faut carrément débrancher son mental, c'est ça ?
Tout à fait, bah, vous l'avez très bien dit, puisque beaucoup de gens pensent que l'intuition, ça se passe dans la tête, et en fait, ça se passe un peu partout dans le corps, sauf dans la tête, je dirais. Sauf qu'au final, ça nous remonte, l'idée nous remonte à l'esprit. Donc l'intuition, c'est en effet un accès à l'information, vous disiez la vérité, je crois, un accès à l'information immédiat.
Oui.
Sans passer directement par les cinq sens, puisque habituellement c'est par nos sens que l'information arrive à nous, c'est des choses que c'est ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on touche, ce que l'on goûte éventuellement. Et sauf que l'intuition c'est pas ça, quoi. L'intuition c'est un accès direct à l'information qui va se manifester dans notre corps par des micro mouvements, donc ça va être plus des ressentis, quoi, qui se traduiront in fine par une idée. Donc une idée mentale, mais c'est pas une construction mentale en effet.
Alors l'intuition, elle est au cœur de votre roman, et toutes les données scientifiques que vous rapportez, d'expériences menées autour de l'intuition par des équipes de chercheurs protégées par la CIA, sont vraies. En fait, tout a commencé à l'époque de la guerre froide, n'est-ce pas, au nom de l'espionnage entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ce projet s'appelait Stargate, et la CIA approcha le physicien Harold Puthoff, qui menait des recherches sur le paranormal, quand les services secrets américains apprirent donc que les soviétiques investissaient des fortunes dans la recherche sur les phénomènes psychiques à des fins militaires. Tout ça, c'est vrai, là, tout ce
oui,
que je raconte.
Vrai, tout à fait. Puthoff, c'était un scientifique de l'université de Stanford, donc prestigieuse université en Californie.
Mais oui.
Et donc, il travaillait au SRI, c'est le Stanford Research Institute, donc une émanation de l'université, et il a rencontré un artiste du nom d'Ingo Swann. Et il s'intéressait à cet artiste. Pourquoi ? Parce que ce gars-là était doué d'intuition. Il était plus précisément capable de décrire un objet qu'on lui cachait dans la pièce à côté. Donc ça fascinait Puthoff, qui s'est mis en tête non seulement d'étudier ce don, on pourrait dire, cette faculté, mais surtout il s'est mis en tête de mettre au point une méthode pour l'acquérir et puis pour pouvoir la transmettre à d'autres.
Mais alors, depuis longtemps, quand on cherche une explication rationnelle au phénomène de l'intuition, on dit que l'intuition, l'information intuitive, elle est véhiculée par un champ magnétique. On dit qu'elle est portée par des ondes magnétiques, oui. Mais en fait, pas du tout. En lisant ce thriller qui est absolument fascinant, et qui a donc pour titre Intuitio, Laurent Gounel, j'ai découvert qu'il y avait eu une expérience absolument extraordinaire à bord d'un sous-marin baptisé le Taurus, qui a plongé à des profondeurs où aucune onde d'extrêmement basse fréquence ne pouvait passer. Donc il n'y avait plus du tout de champ magnétique. Le Taurus, il était entre deux eaux, à 170 mètres sous le niveau de la mer, à 150 au-dessus du fond de l'océan. Et là, il s'est passé avec ce fameux physicien Puthoff, il s'est passé des choses extraordinaires, racontez-nous.
Ben oui, donc ils ont en effet invité un intuitif, donc je crois que c'était avec Ingo Swann d'ailleurs, enfin en tout cas ils ont invité cette personne à se mettre dans le sous-marin, à descendre à cette profondeur qui avait été calculée très précisément pour vraiment minimiser tout passage possible d'ondes électromagnétiques, et puis ils lui ont demandé de capter des informations choisies après à l'extérieur, en l'occurrence ils avaient choisi un lieu secret qu'ils devaient décrire. donc en n'ayant aucun indice préalable naturellement, et il a été capable de le faire alors qu'il était dans le sous-marin au fin fond de l'océan.
On pourrait presque parler de voyance là, et puis d'intuition.
Eh bien, ben en tout cas, ça ne nous dit pas comment ça marche, et en fait aujourd'hui il y a toujours un mystère par rapport à ça. On sait que ça existe, donc c'est démontré scientifiquement.
Et surtout, on s'en sert à des fins militaires, puisque par exemple, Ingo Swann, il a travaillé avec l'armée américaine, n'est-ce pas ?
Ben oui, parce qu'en fait, Puthoff donc, a commencé ses recherches au sein de l'université, et puis assez rapidement, il a eu des résultats assez probants, sachant qu'il avait du mal à boucler ses budgets tous les ans, parce que ça touche au paranormal, donc ça rassurait pas les universitaires. Donc il ramait un peu quand même, et puis un beau jour, on frappe à la porte du labo, et ce sont deux hommes en noir qui
arborent
des badges de la CIA, qui se pointent et qui lui disent, voilà, on s'est intéressé à vos travaux, on vous propose de continuer dans le cadre de la CIA, et on vous les finance. Et donc lui, qui ramait chaque année pour boucler ses budgets, il accepte, parce que l'occasion était trop belle. Sauf qu'à partir de là, on lui dit, le labo, on va le déménager, on va le mettre sur un site militaire, près de Washington, à Fort Meade. Et puis, surtout, on va le classer secret défense. Et en fait, c'est sans doute la raison pour laquelle on n'en a jamais entendu parler. Et on nous a appris à l'école, vous comme moi, je présume, que ça n'existe pas, l'intuition.
Voilà.
Que les bonnes décisions, on les prend en réfléchissant, en se concentrant dans notre tête. Quoi. Et donc, on ignore que ça existe. Quoi.
Surtout qu'on est dans un monde cartésien. Il faut absolument être rationnel. Et pourtant, mais alors, voilà, tout est secret défense, mais alors, les intuitifs, comment les trouve-t-on ? Comment les sollicite-t-on ?
Alors, ils étaient recrutés, à l'époque, ils étaient recrutés au sein de l'armée. Au sein de l'armée, c'est des militaires, il fallait qu'ils gardent le secret. Et d'ailleurs, je suis en relation avec l'un d'eux, qui s'appelle Paul Smith, qui est un ancien major de l'armée américaine, qui a été chef du renseignement à Washington.
Avec lequel vous avez fait des expériences.
Oui, et il a consacré 7 ans de sa vie sur le projet. En fait, pendant 7 ans, il était à Fort Meade sur ce projet Stargate.
Et il paraît qu'il a permis, d'éviter des attaques pendant la guerre Iran-Irak, ce major de l'armée américaine, juste par... ces visions intuitives.
Oui, c'est un jour, ses patrons lui ont demandé de travailler par intuition sur. Le sujet, c'était quel va être l'événement le plus important pour les États-Unis dans la semaine qui vient.
Ouais.
Et donc, il part en intuition, il applique la méthode qu'on décrira peut-être un peu tout à l'heure, si on a le temps.
Ouais.
Et en fait, il parvient à un dessin. Il dessine quelque chose qui ressemble à un bateau. En fait, il dessine un bateau et il dessine un avion qui avance vers ce bateau. Et deux jours plus tard, il y avait une frégate américaine qui croisait dans les eaux au large de l'Irak et de l'Iran, c'est pendant la guerre en effet, et qui se prend un missile Exocet tiré par les Irakiens. Quoi. Et quand on voit la photo du bateau, moi j'ai eu le dessin de Paul Smith,
pareil.
La photo du bateau, c'est la même chose. Quoi.
Hallucinant. Bon, alors, cher Laurent Gounelle, il est temps de présenter le héros de ce thriller. Timothy Fisher, jeune auteur de Polar, qui habite un appartement new-yorkais, devant la porte duquel, un jour, et ben justement, voilà, vont se présenter deux agents du FBI. Pour l'embarquer où ?
Mais en fait, ils lui font une proposition un peu étrange. Ils lui disent, voilà, on a besoin de vos services pour localiser le criminel le plus recherché du pays. Lui, il croit une plaisanterie. Il leur dit, mais vous savez, je suis qu'un auteur de Polar. Enfin, je vois pas en quoi je peux vous aider. Et puis, il botte un peu en touche. Enfin, ils veulent pas trop lui dire. Donc, il l'emmène avec eux. Et puis, il faut rencontrer la personne qui dirige un labo, donc placé à Fort Meade, et qui lui parle du projet, qui lui dit, voilà, on a écouté vos interviews, on a compris que vous étiez naturellement très intuitif, donc on va gagner du temps avec vous, on va vous former à cette méthode, donc mise au point dans la vraie vie par Puthoff.
Oui, parce qu'il y a une formation.
Ben oui,
mais
en fait,
oui, on va l'évoquer tout à l'heure.
Le scientifique a vraiment mis au point une méthode pour pouvoir acquérir l'intuition. Quoi. Et donc, dans mon roman, ils disent à ce jeune auteur, on va vous former à ça, avec vous, on va gagner du temps et après, vous allez pouvoir nous aider à localiser le criminel qu'on recherche.
Alors, l'avis de votre héros, totalement sceptique au départ, va complètement basculer. Et ce qui est fascinant dans ce thriller, Intuitio, c'est qu'en fait, le récit repose sur des données scientifiques avérées. Mais Laurent Gounelle, on a tous vraiment ce pouvoir de l'intuition en nous, seuls certains sujets le possèdent.
Alors, tout le monde a cette faculté, cette capacité, c'est un peu comme voir ou entendre ou goûter, c'est une faculté naturelle. La seule chose, c'est qu'on ne le sait pas. Parce qu'à l'école, on ne nous a pas appris qu'on avait ça en nous. Et en plus, vous l'évoquiez tout à l'heure, on est dans la patrie de Descartes quand même.
Voilà.
Donc en France, plus encore qu'ailleurs, on veut à tout prix réfléchir, on veut que ça se passe dans la tête. Quoi.
C'est-à-dire qu'il y a, très cellules en fait, qui travaillent dans les services secrets américains et russes avec des intuitifs, mais pas dans les services secrets français.
Pas à ma connaissance.
C'est vrai. Bon, on parle bien du pouvoir de l'intuition utilisé effectivement par les services secrets. On ne parle pas de voyance ni de pensée magique. Et pourtant, j'ai 1000 questions à vous poser, Laurent Gounel. Donc, on fait vraiment une très très courte pause. On se retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Le nouveau roman de Laurent Gounel est un thriller hypnotique. Pourtant, toutes les données scientifiques sur lesquelles il repose sont avérées. Il a pour titre Intuitio et paraît chez Calman Levy. Alors, Laurent Gounel, bon, juste avant cette pause, je précisais qu'on parlait avec vous du pouvoir de l'intuition utilisé depuis des années par les services secrets des grandes puissances à des fins militaires. Et dans votre roman, pour déjouer les plans d'un incendiaire qui fait sauter les tours dans lesquelles se trouvent des firmes d'investissement, eh ben voilà, il s'agit bien d'intuition et non pas de don de voyance, n'est-ce pas ? C'est pour cette raison-là qu'on va aller chercher Timothy Fisher. Mais quand même, distinguer l'intuition de la voyance, c'est pas évident. Quand on parle, par exemple, de voyants, on pense tout de suite à des charlatans. Bon, je sais pas si le raccourci est injuste, parce que j'ai le sentiment que intuition-voyance, c'est fichtrement emmêlé.
Moi, je pense que c'est un peu la même chose. Alors, en effet, le monde de la voyance a mauvaise presse parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Et ceci étant dit, je pense qu'il y a, aussi des gens compétents. Il y a des gens qui ont vraiment cette capacité de voir quelque chose. D'ailleurs, moi, je peux vous raconter une anecdote, si vous voulez.
Mais oui.
J'ai jamais consulté de voyante ou de voyant de ma vie. Mais un jour, dans une vie antérieure, hein, quand j'étais consultant, je rencontre un monsieur que je vois pour la première fois de ma vie.
Une vie antérieure, vous ne nous parlez pas de karma.
Non, c'était
rationnel.
Une plaisanterie.
Voilà.
Avant d'être écrivain.
Voilà.
Donc, c'était il y a 15 ou 20 ans. À peu près, et donc oui, il y a une vingtaine d'années en fait. Et je lui, donc quelqu'un que j'accompagnais sur le plan professionnel pour un coaching, et donc je le vois pour la première fois de ma vie. On travaille ensemble pendant 2 heures, et au bout de 2 heures, on prend un café, voilà, la séance de travail était terminée, et il me dit « Ah, vous savez, j'ai un don de voyance. » Bon, enfin, moi je me dis « Bon, ok, pourquoi pas, voilà. » Je dis rien, évidemment, par politesse. Quoi.
Oui.
Et il me dit « Mais d'ailleurs, je vois des choses vous concernant. » Bon, et là, il commence à parler et à me dire des tas de choses, mais sur ma vie, alors pas sur mon futur, il m'a dit juste une chose sur mon futur, il m'a dit que j'écrirais un livre, ce qui était amusant, mais surtout, il m'a dit des tas de choses sur mon présent, qui étaient justes, y compris des choses que j'ignorais. Par exemple, il m'a dit, vous venez de rencontrer une femme, oui, c'est celle qui est devenue mon épouse, il me dit, elle est petite, elle est blonde, elle est originaire d'un lieu qui est situé entre l'Autriche et la Scandinavie, elle est originaire de Pologne,
oui.
Et il me dit, elle mesure 1m60 et elle est chose du 36. Et en fait, je savais tout le reste, mais je ne savais pas qu'elle chaussait le 36. J'ai dû lui demander après le soir et elle m'a confirmé qu'elle chaussait le 36.
Généralement, quand on fait 1m60, on ne chausse pas du 42.
Certes, bon. Mais je ne lui avais pas dit qu'elle faisait 1m60.
Donc, vous avez repris un autre café ensuite avec ce monsieur pour
en fait,
lui
je suis toujours
que...
en relation avec lui, ah bah on
voilà.
a sympathisé.
Ah ben bah voilà. Bon, alors, revenons au sujet de l'intuition qui infuse vraiment ce thriller. Laurent Gounel, les études et recherches menée par le physicien Harold Puthoff, donc, sur les pouvoirs de l'intuition, prouve que l'intuition permet de collecter des informations qui concernent aussi bien le passé, le présent, que l'avenir, justement. Or, dans votre livre, en vulgarisant les principes de la physique quantique, eh bien, vous nous expliquez qu'il n'existe pas un seul et même temps qui s'écoulerait de façon régulière en tout point de l'univers. Pas du tout. Le temps universel, ça n'existe pas. Par exemple, le temps s'écoule plus vite au sommet d'une montagne qu'au fond d'une plaine ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, si on prend une horloge atomique, hein, qui est une horloge extrêmement précise, et qu'on on les règle toutes les deux donc à la même heure, on en met une en pleine et l'autre au sommet de l'Everest, par exemple, on laisse passer quelques semaines, et bon, on redescend celle qui est en haut de l'Everest, ben on va se rendre compte qu'elle n'affiche pas la même heure que celle qui est en bas. Quoi.
Incroyable. Alors,
oui.
Autre exemple plus affolant, vous écrivez dans ce roman, vous écrivez, mais par exemple, si au début d'un repas, vous montez dans une navette spatiale capable de voler à une vitesse proche de celle de la lumière et vous réatterrissez à la fin de ce repas, c'est-à-dire, on va dire, une heure plus tard en temps terrien, pour retrouver donc les convives, et bien les convives, ils seront morts depuis des millions d'années. Donc ça nous ramène aux travaux d'Einstein, qui disait que le temps est influencé par la masse d'un corps et par la vitesse. On songe par exemple au film Interstellar. Et ça ouvre des portes sur justement la notion de conscience, d'intuition et de voyance. Parce que l'intuition, en fait, c'est on parle d'un temps réel, c'est immédiat.
Oui, tout à fait.
Mais c'est quoi l'immédiat? Puisqu'il y a plein de temps parallèles.
Oui, mais oui, en fait, on a tous le sentiment, et moi aussi, et vous également, j'imagine que le temps s'écoule, et qu'il s'écoule du passé vers le futur. Ça, c'est notre perception, d'accord? Sauf qu'en fait, il semblerait que ce ne soit pas aussi simple que ça. Il y a deux expériences qu'on peut citer. Il y en a une qui a été menée par l'inventeur de la bombe hydrogène nucléaire, qui a démontré qu'il pouvait créer une expérience en laboratoire qui puisse modifier la trajectoire passée d'un photon, d'une particule élémentaire.
Ouais.
La trajectoire passée.
Passée, on dit bien.
Donc il peut avoir un impact au présent sur le passé.
Bah alors s'il a un impact au présent sur le passé, ça veut dire que son action présente n'aura pas existé.
Oui,
ou que
le passé est encore présent, ce qui est aussi profondément dérangeant. Et c'est la même chose pour le futur. En fait, il y a un autre physicien du nom de Thibaut Damour, un Français, un nom bien de chez nous, pas n'importe qui, médaille d'or au CNRS, membre de l'Académie des sciences, etc., qui dit qu'à l'autre bout de l'univers, il y a des endroits où le temps s'écoule, mais à l'envers, dans un autre sens, quoi.
Voilà, donc là, on n'est pas dans l'écoulement du temps, mais on peut être dans une résorption, en fait, du temps. Et si on est dans une résorption du temps, on est dans une résorption des mondes.
Alors voilà, et on n'a pas encore d'explication certaine par rapport à ça. On sait que c'est vrai, le temps ne s'écoule pas du passé vers le futur comme on le croit. Par contre, on ne sait pas exactement dire pourquoi. Alors il y a des hypothèses. Parmi les hypothèses, il y a celle des multivers, c'est-à-dire des univers parallèles, où finalement notre passé, notre présent, notre futur existeraient en même temps, si j'ose dire, mais dans des univers parallèles, ce qui expliquerait pourquoi ils sont accessibles par intuition, une fois de plus. Il y a d'autres hypothèses selon lesquelles, par exemple, tout existerait en même temps. Et bon, c'est très troublant, tout
donc
ça, c'est très dérangeant.
Par exemple, la notion de l'âge, elle n'est absolument pas précise. À l'aune de quelle valeur de temps?
Oui, exactement. Tout à fait, tout à fait.
Et alors, vous nous avez dit tout à l'heure, Laurent Gounelle, que vous aviez en fait participé, enfin, je savais que vous aviez participé à des expériences sur le champ des possibles avec l'intuition. Il paraît que en fait en 2015, à l'issue d'une conférence, un homme du nom d'Alexis Champion, donc qui a créé un centre de recherche et a travaillé avec l'armée américaine sur le projet Stargate, vous a accosté pour vous proposer un stage de formation. Alors vous étiez sceptique qu'au départ vous avez refusé, puis finalement, je ne sais pas, un an, deux ans plus tard, vous avez accepté. Et concrètement, alors, que s'est-il passé?
Eh bien, en fait, on s'est retrouvés en face à face dans une salle que j'avais réservée. Et donc, il m'initie à cette fameuse méthode mise au point par ce scientifique, Harold Puthoff, sous couvert de la CIA. Il m'initie à la méthode et très rapidement, c'est au bout de quelques heures, il me dit, on va tout de suite faire une première expérience. Donc, je choisis un lieu. J'en imprime la photo, elle était déjà imprimée, il l'a cachée dans une enveloppe et il me dit, je pose l'enveloppe devant vous sur la table. Donc l'enveloppe était opaque, une enveloppe Kraft. Et il me dit, votre mission, c'est de décrire ce lieu aussi précisément que possible. Sachant que je n'avais aucun indice préalable. Donc au fond de moi, je me dis, ok, je vais mettre en œuvre la méthode parce que je suis là pour ça, mais j'y crois pas.
On pose ses mains sur l'enveloppe, on ferme les yeux.
En fait, on déroule la méthode. Alors je peux vous décrire juste en quelques mots, c'est un peu long, c'est très rigoureux, il y a tout un protocole que je décide écrit assez précisément d'ailleurs
dans le livre,
dans l'intuition, mais grosso modo la méthode vise d'abord à prendre en compte les micro-mouvements qui se manifestent en nous, dans le corps, dans l'intestin, dans les cils simplement, ou la main. Et donc on va faire en sorte que tout se concentre sur la main.
Alors comme dans l'écriture automatique.
Voilà, c'est ça. Donc on prend un feutre en effet, on a une page blanche devant nous, on pose le feutre, et à partir du moment où on va penser au lieu, alors pour nous aider à penser au lieu, il va lui attribuer une coordonnée, c'est une série de chiffres qu'on va répéter, et en répétant cette série de chiffres, on va laisser la main partir en écriture automatique, non pas pour écrire quelque chose, mais pour dessiner. Donc là, il y a déjà quelques heures de formation pour apprendre à lâcher prise véritablement.
Oui.
Parce que moi, quand j'ai commencé à le faire au début, c'est mon cerveau qui guidait ma main.
C'est pour ça qu'on parlait de construction mentale au départ.
Voilà, donc je voulais faire un gribouillis qui ressemble à quelque chose.
Voilà.
Donc c'est super dur, en fait, de vraiment lâcher prise pour que la main fasse vraiment ce qu'elle veut, donc n'importe quoi. Donc c'est un gribouillis qui ressemble un peu à rien.
Mais à n'importe quoi qui n'est pas n'importe quoi.
Qui n'est pas n'importe quoi, en fait. Et donc on va apprendre à décoder ce gribouillis, par exemple. On va voir s'il y a une sinusoïde, ça signifie qu'il y a une présence d'eau dans le lieu qu'on recherche. Enfin, il y a toute une manière de décoder en fait, ces choses-là et qui nous aide, en fait, indépendamment du décodage, à rééquilibrer l'usage des deux hémisphères du cerveau. Parce qu'en fait, il a été démontré que c'est à ce moment-là, quand l'usage des deux hémisphères est bien coordonné, qu'on a plus accès à nos intuitions. Et donc, il y a des choses qui émergent. Et moi, j'ai senti venir en fait, des couleurs, puis des formes. Alors au début, très vague, très, très flou, je dirais, ça ressemblait à rien. Et puis petit à petit, ça se précise. Alors ça dure assez longtemps, en tout, la méthode, ça dure, quand vous déroulez le protocole, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Et au bout du compte, j'avais écrit, il y a des lignes horizontales parallèles,
ouais.
Il y a des formes rondes multiples, il y a plein de ronds. Quoi. Puis je voyais que c'était mouillé vers le bas et puis lumineux dans le fond. Ensuite, il ouvre l'enveloppe,
ouais.
Et là, je vois apparaître la photo d'une cave d'affinage de fromage.
Donc, il y avait d'où les ronds.
Voilà, il y avait des grands fromages ronds posés sur des étagères superposées.
Incroyable.
Et il y avait une flaque d'eau au sol, et dans le fond de la pièce, une petite lucarne diffusait de la lumière.
Bon, vous allez être recruté par la CIA, Laurent Gounel, dans peu de temps. Bon, je peux dire en tout cas que 2 ans et demi après cette expérience, n'est-ce pas, vous vous lanciez dans la rédaction d'Intuitio, qui paraît chez Kalman Levy, c'est ça?
Tout à fait, tout
ça
à fait.
Ça a décanté.
Oui, il m'a fallu 2 ans et demi ou 3 ans pour avoir l'idée d'un roman qui porte, parce que j'avais envie de partager cette méthode avec tout le monde, et aussi d'amener chacun à réaliser que chacun a cette capacité en soi, même indépendamment de la méthode. On est tous doués d'intuition, mais sans le savoir. Donc ça, je voulais à tout prix écrire là-dessus, mais je ne trouvais pas l'histoire. Il m'a fallu 3 ans pour avoir l'idée d'un thriller, en l'occurrence, qui me permette de dévoiler tout ça.
Et j'ai le roman entre les mains. On se retrouve tout de suite avec Laurent Gounel.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Laurent Gounel fait paraître chez Kalman Levy Intuitio. Et c'est en sa compagnie qu'on se balade cet après-midi. Alors, cher Laurent Gounel, construit-on sa pensée de manière forcément rationnelle quand on a un père qui est un pur scientifique, chercheur en physiologie et professeur d'université ?
Ah bah, ce qui est sûr, c'est que j'étais un petit peu formaté au début, c'est normal. Donc j'étais en effet quelqu'un de très rationnel, enfin, je le suis encore, je pense, quelque part.
Quoi. Oui.
Et surtout, oui, on m'aurait dit il y a 20 ou 30 ans, ces choses-là, l'existence d'une méthode, et même l'existence en chacun de nous, de cette capacité à percevoir l'information autrement que par nos sens, je ne l'aurais pas cru.
Quoi. Bon, la rigueur et l'austérité de votre père étaient... renforcé peut-être par le côté vieille famille protestante, c'est ça? Vous étiez
dans un cadre bien
rigide et structuré.
Oui, oui, bon, heureusement, il y avait ma mère catholique par ailleurs qui mettait un peu de fun là-dedans. Quoi. Mais en effet, oui, j'ai eu une éducation assez sérieuse. Mais c'est aussi une question de génération, hein, d'ailleurs. Moi, je suis né en 66. À l'époque, on n'élevait pas les enfants comme maintenant.
C'est
ni mieux ni moins bien d'ailleurs, parce que évidemment chaque style d'éducation présente des avantages et des limites.
Mais alors, avec le style d'éducation qui a été le vôtre, vous, dont le premier livre qui fait un triomphe en librairie avait pour titre « L'homme qui voulait être heureux », est-ce que vous avez le souvenir d'avoir été un enfant heureux ?
Écoutez, oui, c'est dans le sens où j'étais pas malheureux, quoi.
Ne pas être malheureux, est-ce heureux ?
Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais un enfant heureux, parce que j'avais aucune raison de ne pas l'être, et en même temps, j'étais pétri de peur. Je pense que je suis le seul responsable, ça vient pas de mes parents ou de mon environnement, en l'occurrence. Vous savez, en fait, ça vient de ma personnalité. Au fond de chaque personnalité, il y a une problématique. Donc chez certains, ça va être une problématique de colère, chez d'autres, ça va être une problématique d'image. Et moi, c'est une problématique de peur. Voilà, je l'ai pas choisi. Par contre, ça m'a un peu pourri la vie pendant 20 ans, je dirais au moins.
C'est pour ça que vous êtes devenu ensuite l'apôtre du développement personnel, de l'équilibre, de la sérénité retrouvée.
Ben oui, mais c'est souvent comme ça. Vous savez, c'est quand on a vécu de l'intérieur un vrai problème.
Bien sûr.
Et qu'on a, par un travail sur soi, réussi à le surmonter, qu'ensuite on devient le mieux placé pour en parler et peut-être même pour guider les autres sur ce plan.
Mais alors, à cette époque-là, donc on évoque l'enfance, l'adolescence, les angoisses existentielles n'étaient jamais à l'ordre du jour chez les Gounel, c'est ça ?
Non, c'est-à-dire, moi, ce dont j'ai souvenir, c'était de m'être assez vite retrouvé sur des rails, avec une espèce de promesse parentale d'ailleurs, qui était si tu travailles bien à l'école, voilà, si tu fais de bonnes études, eh bien tu auras un bon métier et tu seras heureux, quoi. Bon. Et donc, moi, j'ai naïvement cru en cela.
Et c'est la raison pour laquelle vous avez fait une maîtrise d'économie à Dauphine, un DESS en commerce extérieur à la Sorbonne, et Allez, on peut le dire, vous êtes allé à la suite de ça, végéter en entreprise en vous étiolant au fil de différents licenciements. Donc vous étiez à cette époque-là plutôt spectateur de votre vie, c'est ça?
Mais c'est exactement ça. Et le terme est très bien choisi, Isabelle. C'est-à-dire, quand je repense à ces années-là, j'ai l'impression d'avoir été un peu dissocié, en effet. Un peu comme en état d'hypnose, vous voyez, ne vivant pas vraiment ma vie. Je crois que j'étais à côté de la plaque parce que j'étais pas à ma place, en fait. C'est aussi pour ça que j'étais pas spécialement heureux, en tout cas, sur le plan professionnel.
Vous étiez là où vous pensiez qu'on voulait que vous soyez?
Oui, peut-être quelque part, même si c'est moi qui avais choisi mon orientation professionnelle, mais je m'étais bien trompé en l'occurrence, hein, puisque j'étais à un poste financier, j'étais malheureux comme la pluie, j'étais pas fait pour ça. Et oui, ça se passait pas bien.
Alors, vous avez monté une boîte avec des outils de jardinage importés d'Asie. Bah alors, franchement, je ne veux pas vous vexer, mais votre maîtrise d'économie, elle n'a pas servi à grand-chose à cette époque-là, Laurent Bounal, car bah, voilà, il paraît que vous avez fait faillite. Et alors, enfin, puis-je dire, eh ben, vous avez pris la décision de drastiquement changer de vie. Donc, je voudrais savoir, vous vous souvenez du premier matin de votre nouvelle vie, le jour où vous avez décidé d'envoyer tout promener, sans vous préoccuper du regard de personne?
Oui, alors pour être honnête, c'est pas vraiment moi qui ai envoyé tout promener, en fait.
C'est
l'entreprise dans laquelle je travaillais qui m'a envoyé balader.
D'accord.
Donc je me suis retrouvé au chômage. J'ai essayé en effet de monter cette petite entreprise dont vous avez parlé qui n'a pas marché, en fait, dès le début, quoi. Et puis finalement, j'ai un peu touché le fond du trou, quoi, le fond du gouffre. Et c'est à ce moment-là, en fait.
Toujours le coup de pied au fond de la piscine.
Mais oui, mais en fait, je crois que c'est nécessaire à un moment donné de descendre bien bas pour remonter. Parce qu'il se passe des choses une fois qu'on est tout en bas. Et notamment, bah, on n'a plus rien à perdre. Et le fait d'avoir plus rien à perdre, notamment en termes de regard des autres, vous voyez, regard des autres, regard des parents aussi, mais en fait, on ne peut plus décevoir personne, parce que ça y est, on a déçu tout le monde. Et donc, à partir de là, ça vous confère une liberté que j'ai vraiment ressentie. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai su ce que je voulais faire. J'ai su que j'étais attiré par l'être humain, même si j'en avais peur, parce que j'étais très, très peureux, je vous l'ai dit. Oui. Et les gens me faisaient peur, quoi. Mais néanmoins, j'ai su que ma vie, elle était dans le monde de l'humain et des sciences humaines, quoi.
Alors, Laurent Gounel, le premier séminaire de développement personnel, vous l'avez fait où? Parce que ensuite, effectivement, vous êtes allé vers les autres, vous avez monté un centre de formation, vous avez fait plein de choses. Mais d'abord, le travail sur vous, ça s'est passé comment?
Alors au début, par des lectures, parce que je n'avais pas le courage de pousser la porte d'un psy pour résoudre mes problèmes. Parce que dans ma famille, les psys, c'était pour les fous. Donc, voilà,
ah, carrément.
Ça n'avait jamais été formulé, mais bon, c'était un peu l'époque qui voulait ça aussi. Hein. Donc, j'ai travaillé sur moi directement en lisant des livres, et ensuite, en effet, en suivant des formations, alors avec différents courants de pensée dans le domaine de la psychologie, mais plutôt autour des psychologies, des thérapies brèves. Donc, les courants cognitivo-comportementalistes, comme la PNL, l'AT, l'hypnose ericksonienne, toutes ces choses-là qui m'ont passionné. Et ça a été un peu une porte d'entrée vers les sciences humaines.
Ouais.
Et je me suis pris de passion pour ça.
Et ben voilà, je reçois Laurent Gounel, l'homme qui a réussi à être heureux. On fait une pause très courte. On se retrouve tout de suite.
Europe 1.
Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just gonna go about it, kill me. Till you tell me on a heavenly phone. So hold tight. Come on. Just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy.
maybe I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah. You've got a higher power. And you really someone I wanna know. Shaking just to let you know now.
C'est chic pour un nouvel album d'avoir un titre présenté par Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale. C'était Higher Power, Coldplay.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
Le nouveau roman de Laurent Gounel va vous faire découvrir le pouvoir fascinant qui est en vous. Il a pour titre Intuitio, et paraît chez Calman Lévy. Laurent Gounel, 99,99% du volume d'un atome est constitué de vide. De vide dans lequel flottent des particules élémentaires très éloignées les unes des autres, et puis un nuage d'électrons. Et dans le monde des particules, ben voilà, tout est vibration, vraiment tout est onde. Rien n'est immobile. Par exemple, on prend le plus dur des cailloux, en réalité, eh bien, c'est une vibration de champ. On croit que le monde repose sur des objets solides, mais pas du tout. Rien n'est figé, comme disent les bouddhistes.
Oui, c'est ça. Il y a devant nous une table. Si je frappe sur la table, on peut entendre le bruit mat et donc avoir le sentiment que c'est un objet qui est figé, immuable, bien solide, bien stable. Et en fait, il n'en est rien. C'est une illusion, un petit peu comme l'illusion du temps dont on parlait tout à l'heure.
Voilà.
Puisqu'en effet, si on regarde dans le monde de l'infiniment petit, donc si on pouvait zoomer à l'œil nu, c'est pas possible sur cette table, on se rendait compte qu'en effet, elle est constituée de molécules, donc d'atomes assemblés.
Et voilà, de 99,99%
voilà,
de vide.
Voilà, si on zoome encore plus, on va voir les particules élémentaires, on va voir des quarks ou quarks, je ne sais jamais comment ça se prononce, quoi, qui sont entourés de vide. Et donc, en effet, plus de 99% de cette table, c'est du vide, mais pas un vide anodin. C'est-à-dire, en fait, toutes ces particules sont reliées
elles
entre elles.
Sans arrêt.
Voilà,
Tout bouge,
de l'énergie, ça vibre, il y a de l'énergie. Et donc, finalement, le monde, je crois que c'est Carlo Rovelli, le physicien italien, qui dit on perçoit le monde comme une collection d'objets, et en fait, c'est un réseau d'événements. Rien n'est figé. Quoi.
Oui, parce que comme tout bouge, ça veut dire que tout est en action, les actions se tricotent, donc tout se transforme.
Voilà, exactement.
Mon Dieu. Bon, on parlait du temps tout à l'heure, et d'ailleurs, vous évoquiez ces univers lointains où le temps ne s'écoule pas dans le même sens que sur notre planète, ça a été démontré par un physicien français. Je voudrais qu'on parle d'Einstein. Je découvre en fait, en lisant votre roman, que un mois avant sa mort, Albert Einstein avait terminé la rédaction d'une lettre par ces mots « La distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion tenace. Donc peut-on en conclure que ceux qui sont morts existent toujours dans d'autres espaces-temps, Laurent Gounel ?»
Eh bien, écoutez, c'est en tout cas mon sentiment. Alors, dans ce domaine-là, dans la mesure où on ne peut rien prouver scientifiquement, on ne peut rester que sur des hypothèses ou des intimes convictions, et notamment les religions transmettent leurs réponses hein, sur ce plan-là. Donc, je peux vous dire quel est, moi, mon sentiment, mais qui n'est qu'un sentiment. Moi, j'ai le sentiment que l'âme est dissociée du corps. C'est-à-dire, en fait, les médecins voient l'âme, la conscience. Hein. Ils ne parlent pas d'âme, ils parlent de conscience. La conscience comme un sous-produit du cerveau.
Mais pas du tout.
Et pour moi, non. Pour moi,
l'âme n'est pas un sous-produit du cerveau.
Existe indépendamment du cerveau. Elle n'est en aucun cas un sous-produit du cerveau. Et donc, je pense qu'en effet, que la mort n'est que la mort physique, c'est-à-dire la mort du corps, et que l'âme n'est absolument pas concernée par cela.
Donc, le corps vieillit et meurt, mais alors la conscience ?
Ah ben moi je pense
où va-t-elle flotter et vibrer?
Eh bien, en fait, je pense qu'elle va là où peut-être, d'ailleurs, nous allons tous chaque nuit quand on dort, quoi, parce que c'est quand même troublant, ce phénomène
oui,
de sommeil, quand on prend un peu de recul.
Et de rêve.
Et de rêve aussi.
Et de vie parallèle grâce au rêve.
Mais voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et on peut faire le lien avec l'intuition, d'ailleurs, parce que l'intuition, c'est quoi? C'est-à-dire, à un moment donné, moi, je peux raconter en deux secondes une autre séance d'intuition que j'avais faite. Je devais travailler non plus sur un lieu, mais sur un événement. Et en fait, cet événement, qu'est-ce que je vois? Je capte des gens, mais des gens qui bougent, qui dansent, j'entends de la musique, je vois qu'ils font la fête, et en même temps, je sens de la peur. C'est pas logique, on fait la fête, on a peur, les deux vont rarement ensemble. Sauf que j'apprends que l'événement en question, je vous fais une version courte, hein. Non, c'est l'arrivée de Bougainville à Tahiti.
Ouais.
Et les Tahitiens, quand ils ont vu le navire de Bougainville arriver au XVIIIe siècle, ils ont eu peur. Pourquoi? Parce que quelques temps avant, ils avaient eu la visite d'un navire anglais. Et en fait, ils avaient accueilli les Anglais à coups de jets de pierre. Et en retour, ils avaient reçu des boulets de canon. Donc ça s'était mal passé.
Ouais.
Du coup, quand ils voient les Français arriver, ils ont peur. Et ils se disent, on va faire autre chose. On va faire l'inverse. On va bien les accueillir. On va faire une fête en leur honneur pour les amadouer. Et donc, ils ont fait la fête en ayant peur. Et moi, c'est incroyable de se dire que j'ai capté à trois siècles, presque trois siècles d'intervalle, deux siècles et demi, des émotions vécues à l'autre bout du monde, vous voyez.
Mais c'est extraordinaire.
Donc on voit bien que l'espace et le temps, en fait, n'existent pas vraiment, quoi. Et notre conscience, ou notre âme, appelons ça comme on veut, est capable de se déplacer dans le temps et dans l'espace pour glaner des informations. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas enfermée dans le corps, et partant de là, mais il est très tentant de penser que quand le corps meurt, la conscience n'a aucune raison de mourir.
Mais alors, Laurent Goudel, tout à l'heure, on en parlait, le temps, en fait, ne s'écoule pas de la même façon dans tous les univers,
oui.
N'est-ce pas, qui constituent, en fait, on va dire, notre système
oui.
général, global. Si le temps peut s'écouler et se résorber, l'intuition, ça peut être un souvenir, alors?
Ah, mais c'est une excellente question, une excellente remarque. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose qu'Alexis Champion, donc ce spécialiste de l'intuition qui m'a formé, me disait à propos de mon écriture. Il me disait, en fait, je vais te dire comment tu écris. Pour moi, tu écris de manière intuitive, ta conscience se déplace dans le futur à une date où ton livre existe déjà, voilà, il a paru, et puis tu vas chercher les infos, en fait, tu pompes tes propres livres, il me dit, quoi. Et tu rapportes dans le présent les informations issues du futur. Alors ça peut sembler complètement délirant, moi-même j'étais un peu suspicieux au début, et en même temps ça donne du sens à un phénomène qui se passe quand j'écris, à savoir que les idées me viennent dans le désordre le plus complet. J'ai eu des idées de scènes de la fin, puis du début, puis du milieu. Enfin, ça vient dans le désordre, dans un désordre parfait.
Il y a une chose également très troublante que je voudrais évoquer. Il a été scientifiquement démontré qu'à partir du moment où on observe ce qui se passe dans l'infiniment petit, eh bien la réalité observée se fige telle qu'elle nous apparaît au moment où on la découvre. Comme si en fait ce monde devenait réel uniquement à partir du moment où notre conscience se pose dessus. Ça a été scientifiquement prouvé.
Ça a été démontré. En analyse systémique ou en physique quantique, on dit que l'observateur influence l'observation, et non seulement il influence l'observation, mais il ne peut pas ne pas influencer en fait ce qui est observé, quoi. Et en effet, c'est un petit peu comme si on faisait un arrêt sur image. Le fait de projeter notre conscience sur un phénomène physique dans le monde de l'infiniment petit fige les choses et nous permet d'avoir une certaine vision. Et en fait, c'est un peu comme si on voyait ce qu'on voulait voir, finalement.
On retrouve tout de suite Laurent Goudel.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet.
Le titre du nouveau thriller hypnotique de Laurent Goudel, Intuitio. Il paraît chez Calman Levy. Laurent Goudel, elle vous a emmené loin, votre quête de développement personnel. Vous êtes formé à la PNL, qui explore donc nos structures comportementales. Vous êtes allé aux États-Unis, vous avez participé à de nombreux séminaires en Asie, en Malaisie. Vous avez rencontré des sages, des chamans au cours de ce que vous qualifiez de voyage initiatique. Bon, tout ça c'est passionnant, mais vous vous étendez presque jamais en interview sur ces expériences. Moi, je voudrais savoir, en fait, quel est le voyage, quelle est la rencontre qui vous a le plus profondément marqué au cours de toutes ces années, avant que vous ne décidiez de former les autres et puis surtout de vous mettre à écrire.
Alors il y en a beaucoup, donc ça va être dur de choisir.
Allez, il faut choisir.
Allez, je vais en raconter une, ce sera un scoop pour vous, parce que je ne l'ai jamais raconté dans la presse. Quoi.
Voilà. Je suis tout ouïe, on est tout ouïe.
Alors c'était en Indonésie, à Bali, et je voyais un guérisseur. Je le voyais par curiosité, j'étais pas malade, sauf qu'il vient derrière moi, il se met à me masser les épaules et il me dit « Ah, vous avez une douleur dans l'épaule droite », enfin il me le dit via l'interprète, hein, parce qu'il parlait pas anglais, donc il y avait un interprète, et il me dit « Vous avez une douleur dans l'épaule droite ». Et c'était vrai, ok. Et il me dit, enfin il me fait dire par l'interprète « Je vais éliminer cette douleur sous forme de gaz par votre cuisse droite ». Je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je dis rien. Et cet homme reste derrière moi à me masser les épaules. Il avait juste les mains sur les épaules. J'étais en short, hein, c'est Bali, il fait chaud. Et d'un seul coup, je vois ma cuisse droite doublée de volume, mais vraiment doublée de volume, gonflée, quoi. Et puis mes poils se mettent comme au garde à vous et je sens de l'air qui passe à travers les pores de ma peau. Hein, moi, je me suis mis à trembler. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça a duré, bon, je ne saurais pas vous dire.
Quelque chose d'hallucinogène. Voilà.
Ça a duré 30 secondes, peut-être, une minute. Et puis après, ma cuisse s'est redégonflée.
La
douleur avait disparu. Quoi. Et en fait, ça m'a tellement marqué que j'ai demandé à l'interprète s'il avait vu ce que j'avais vu. Parce que je me suis dit, ça se trouve, voilà, il m'a hypnotisé. C'était une illusion. Mais en fait, l'interprète était dans le même état que moi. C'est assez surpris.
Mais alors, de retour en France, vous en avez parlé à des médecins?
Oui, mais personne n'a su expliquer ça. Quoi. Mais je lui ai demandé à lui déjà les explications. Et là, il m'a sorti des planches, comme des planches médicales, qui devaient ressembler à ce qu'on avait, nous, au Moyen-Âge. Enfin, qui ressemblaient en tout cas pas du tout à ce que j'avais appris à l'école.
Empirique.
Ouais, c'est
hallucinant. Assez Laurent Gounelle, le chemin de la spiritualité, alors là c'est encore autre chose, mais il est peut-être moins aisé pour un occidental laïque, non ?
Le chemin de la spiritualité, le chemin de la spiritualité n'est possible que si vous entrevoyez au moins la possibilité qu'il y ait autre chose que de la matière, en fait, c'est ça. Il faut accepter l'idée qu'il y a autre chose, quelque chose de plus grand que nous, et s'y intéresser. À ce moment-là, voilà, s'ouvre la voie. Quoi. Mais bon, le préalable, c'est ça.
Vous êtes revenu de tous ces voyages tout autour de la planète avec la certitude que, finalement, la recherche du bonheur, ça n'a rien d'égoïste.
Oui, ça c'est certain, et vous faites bien de le dire, Isabelle, parce que souvent on peut croire que voilà, c'est une démarche tout à fait égoïste, et moi, mon petit bonheur dans mon coin, et en fait pas du tout, pour une raison très simple, c'est qu'il est, selon moi, impossible d'être heureux seul. Le bonheur, ça ne peut pas être une démarche égoïste, oui, parce que l'être humain est un être de lien, et on est avant tout heureux par rapport aux autres.
Ouais.
Et donc pour moi, une démarche de développement personnel et spirituel consiste déjà à apprendre à s'aimer, donc se libérer de ses problèmes, hein, quels qu'ils soient, et à s'aimer suffisamment pour ensuite passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? C'est les autres, c'est se connecter aux autres. Et puis ensuite, sur le plan spirituel, découvrir qu'on est connecté à quelque chose de plus grand que nous.
Vous dites s'aimer, c'est se libérer de ses problèmes.
Oui, je pense qu'on a, on a une vraie difficulté avec ça, en tout cas dans notre culture judéo-chrétienne, où on a sans doute mal interprété la parole de Jésus. Jésus disait « Aime ton prochain comme toi-même », et tout le monde l'a tourné vers le prochain. Il faut que je l'aime autant que je m'aime moi-même, mais en fait on oublie que Jésus disait justement « Aime-toi toi-même, quoi. Aime ton prochain comme toi-même, aussi toi-même, vous voyez. »
Alors, Laurent Gounelle, de retour en France, après toutes ces expériences sous de nombreuses latitudes, pendant 10 ans, vous avez exercé comme consultant auprès de grandes boîtes pour l'amélioration justement des relations humaines et l'épanouissement personnel des employés. Mais surgit une année noire au cours de laquelle votre père et votre meilleur ami ont disparu. Est-ce que c'est ce qui a déclenché l'écriture du premier livre, L'homme qui voulait être heureux? Est-ce qu'il vous fallait partager et transmettre autrement soudain?
Oui,
à l'aune de ces deux drames.
Oui, ça faisait 2-3 ans que j'avais envie d'écrire, mais je procrastinais, je remettais toujours au lendemain. Et je crois que la perte de ces deux êtres chers successivement en l'espace de quelques mois m'a amené sans doute à prendre conscience de notre mortalité, quoi, et donc de l'importance de réaliser ce qui nous tient à cœur. Mais au-delà de ça, je pense que chacun de nous a a une sorte de mission sur Terre. Je pense qu'on vient pour une raison et c'est intéressant de le découvrir pour ensuite aller dans cette direction, vous voyez. Et ouais, c'est ma vision des choses.
Chacun de nous a une mission sur Terre. On retrouve tout de suite Laurent Gounelle.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça. Changer le monde, changer les choses, avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes, avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles, comme des pétales et des corolles, qu'écoutaient. Ce n'est que partie remise par les couleurs, les accords, les parfums. Changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras le pouvoir des fleurs.
Y a une idée pas dans mon air.
Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent.
Changer le monde avec un bouquet de roses. Chiche, Laurent Voulzy. C'était le pouvoir des fleurs.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Intuitio, le nouveau roman de Laurent Gounelle qui paraît chez Calman Lévy, va vous faire vous questionner longtemps, très longtemps. Cher Laurent Gounelle, vous, l'apôtre du développement personnel, de la quête du bien-être, de la sérénité, de l'équilibre retrouvé, eh bien soudain, à la page 295 de ce thriller haletant dont l'intrigue démarre loin, très loin des terres que vous balisez d'ordinaire, eh bien voilà, vous vous lancez dans un dialogue sur la décroissance, cette décroissance qui, selon certains, sauverait le monde. Et l'économiste de formation que vous êtes développe deux points de vue. Alors, l'un des personnages affirme: la décroissance n'est pas viable. La croissance est inscrite dans nos gènes comme dans ceux des plantes. Tout sur Terre aspire à croître. La décroissance amènerait des centaines de millions de chômeurs dans les rues. Et l'autre personnage affirme que le monde sera sauvé le jour où la société de consommation cessera enfin de nous vendre ce dont on n'a pas besoin. Laurent Gounel, il pense quoi au milieu de tout ça?
Mais en fait, je pense les deux. Ça ne vous étonnera pas, parce que je suis l'auteur des deux répliques. Mais...
En fait, je pense qu'ils sont très bien argumentés l'une et l'autre.
C'est là, économiquement, on a besoin de croissance. Et en effet, c'est dans nos gènes. C'est, on le voit, enfin, je sais pas, quand on a des enfants, on voit qu'ils aspirent qu'une seule chose, c'est avancer en âge, par exemple, ou avancer en connaissance. Enfin, voilà, on a tous besoin de croissance. Maintenant, la question, c'est quelle croissance ? Et on se rend compte que la croissance industrielle, en tout cas dans sa forme actuelle, pose problème, et un gros problème, même puisqu'elle menace les conditions de la vie humaine sur Terre. Mais il existe d'autres manières de consommer, d'autres manières de croître. Par exemple, si je donne un exemple un peu trivial, si on change de téléphone portable fréquemment, on contribue à abîmer la planète et donc à détruire les conditions de la vie humaine sur Terre. Par contre, si on se paye un cours de yoga ou de je ne sais quoi, ou de cuisine ou autre, on n'abîme rien. Quoi. On s'enrichit soi-même, on développe des capacités et on n'abîme rien. Donc la croissance, je pense, gagnerait à muter vers des activités non polluantes et beaucoup plus enrichissantes finalement pour l'être humain, parce que vous avouerez que c'est plus intéressant de développer des capacités,
et avec
des
cours de yoga, le temps s'écoule autrement, n'est-ce
pas ? En plus,
oui. Bon, mais vous écrivez dans Intuitio, nous sommes la nature c'est nous. D'accord, très bien, mais bien que nous soyons presque 8 milliards sur Terre, on n'a aucun pouvoir face aux firmes.
Oui, alors ça c'est autre chose en effet, c'est-à-dire moi je me suis rendu compte que, alors on nous demande à nous par rapport à la planète des efforts personnels importants, ce qui est bien, parce qu'en effet ça passe par là, par nos choix de consommation, je l'évoquais à l'instant, mais on passe totalement sous silence la lourde responsabilité de grosses firmes de finance américaines en l'occurrence, qui jouent un rôle absolument majeur dans le déséquilibre climatique, et nous, par exemple dans la déforestation en Amazonie.
On peut dire aussi firmes chinoises, hein.
Mais chinoises aussi, oui, mais c'est-à-dire en fait, si je me suis intéressé aux firmes de finance, c'est que je cherchais quel était l'argent. C'est-à-dire faut suivre les firmes qui posent problème et voir quel est le financement de tout ça. Donc on nous parle de déforestation de l'Amazonie, oui, on sait que c'est par rapport à la consommation de bœuf, notamment chez nous, hein, puisqu'il y a malheureusement beaucoup de vaches qui ne sont pas nourries au pré, mais qui vont consommer du soja.
C'est pour ça qu'on abat tant millions d'arbres en Amazonie.
Tout à fait.
Je pensais qu'on devenait de plus en plus végétarien.
Oui,
pas
tout,
assez
tout
vite,
à fait,
alors.
Mais pas assez vite. Quoi. Pas assez vite. Maintenant, il n'y a pas de problème à manger de la viande, même si je suis végétarien moi-même, mais il n'y a pas de problème à manger de la viande si c'est de la viande élevée au pré. Vous voyez, c'est naturel, quelque part. Là où ça devient un gros problème, c'est lorsque ce sont des bœufs qui ont mangé du soja qui a poussé en Amazonie, quoi, et qu'on a détruit la forêt pour ça. Quoi. Sauf que derrière, il y a les mécanismes de financement qui poussent fortement les Brésiliens à cela. Quoi. Vous voyez, et c'est ça aussi que j'ai voulu dénoncer à un moment donné dans une partie de l'intrigue.
Laurent Gounel, plus qu'un romancier, en fait, vous postez comme un éveilleur, c'est ça ?
Bah, disons que moi, j'ai modestement envie de partager des choses que j'ai apprises ou découvertes ou reçues. Moi, j'ai eu la grande chance déjà de pouvoir parcourir le monde, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à la rencontre de sages, d'être éveillé, quoi, qui m'ont beaucoup donné. Donc, j'ai beaucoup reçu. Et à un moment donné, parce que je considère que ma mission sur Terre à moi, c'est de transmettre, je suis une sorte de pédagogue, de passeur, vous voyez.
Ouais.
Donc, c'est ma mission. Donc, je passe ce que j'ai reçu.
Alors, vous avez effectivement beaucoup voyagé. Vous aimez bien expatrier vos lecteurs, hein, loin du terreau français et de son mode de pensée.
Oui, disons que les localisations ont un sens à chaque fois.
Ah. Est-ce qu'un livre peut changer une vie, Laurent Gounel ? Croyez-vous que dans notre maillage social, dans notre maillage économique, un livre puisse vraiment être un déclencheur ?
Alors, changer une vie, non. Être un déclencheur, oui, je l'espère, je pense, quoi. Oui, un livre, ça peut être un petit peu comme une petite boule de neige, vous savez, qu'on lance du sommet de la montagne et qui peut-être va dévaler la pente et puis entraîner un petit peu d'autres neiges avec elle.
Le nouveau roman a pour titre Intuitio, qui signifie intuition. Mais alors, au fait, ultime question, pourquoi avoir choisi le mot italien ?
Alors, plus précisément, c'est le mot latin.
Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'intuitio, en latin, signifie l'image renvoyée par un miroir. Et en fait, l'intuition, quand on comprend comment ça marche, en fait, c'est une perception d'informations extérieures, mais qu'on retrouve à l'intérieur de soi-même, puisque c'est en étudiant les propres mouvements de son corps et finalement nos ressentis, quoi, qu'on va découvrir cette information.
Nous sommes un monde.
Voilà, nous sommes le miroir du monde.
Et on en a la preuve en lisant justement le nouveau roman absolument passionnant de Laurent Gounel, Intuitio, qui paraît chez Calmann Lévy. Merci infiniment.
Merci beaucoup, Isabelle. Merci.
Et à très bientôt.
J'espère.
Europe 1.